10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Le monde ne suffit pas.
Bonjour à tous, vous écoutez le 21e numéro de Le Monde ne suffit pas, votre émission d'actualité internationale que vous suivez depuis un an et demi déjà sur les ondes de Transistor, votre web radio préférée. Je suis aujourd'hui en compagnie de Justine, bonjour.
Bonjour Antoine et bonjour à vous tous qui nous écoutez. Aujourd'hui, nous allons traverser l'Atlantique pour aller en Argentine. Ce pays d'Amérique latine est sous les projecteurs pour trois raisons. Tout d'abord, il commémore les 30 ans de la guerre des Malouines, un archipel à l'est de ses côtes qu'il revendique à l'Angleterre, ce qui ravive de vieilles tensions. L'Argentine commémore aussi un autre « anniversaire », entre guillemets, celui des 10 ans depuis la terrible crise économique, financière et politique qui a sévi en 2001 et 2002. Enfin, ce pays vient de réélire à sa tête Cristina Kirchner.
Et nous recevons aujourd'hui Maria Duran. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour et merci à vous de m'avoir invité.
Donc Maria Duran, vous êtes professeure de littérature à l'Université Lyon 2, spécialiste de l'Amérique latine et vous êtes vous-même d'Argentine. Donc nous revenons avec vous sur la situation de ce pays.
Volontiers.
3, 2, 1, 0.
Le monde ne suffit pas.
Depuis jeudi dernier, on peut lire dans la presse les propos plus ou moins conflictuels que s'échangent Cristina Kirchner et David Cameron, Premier ministre britannique, au sujet de l'archipel des Malouines, situé à 500 km des côtes argentines.
En effet, à David Cameron qui accusait l'Argentine d'avoir un comportement colonialiste, la présidente Cristina Kirchner a répondu « Quand on en vient à dire des choses pareilles, c'est qu'on n'a plus d'arguments ». Nous n'avons fait partie, nous, d'aucune invasion d'aucun pays.
Peut-être pouvons-nous revenir d'abord sur une brève présentation de ces îles. Elles appartiennent au Royaume-Uni à ce jour et comptent seulement 3000 habitants sur un territoire qui équivaut en superficie à l'Irlande du Nord, donc peu d'habitants pour la taille du territoire. Le nom de Malouines vient des marins de Saint-Malo conduits par Bougainville en 1764. Après une courte occupation espagnole de 1770 à 1776, vous nous direz si on se trompe, l'île est prise par les Anglais. Malgré les revendications de la jeune Argentine indépendante, l'île est ensuite occupée par les Anglais qui y implantent des colons à partir de 1833 et lui donnent le nom d'île Falkland. Mais les tensions ne sont pas effacées depuis.
Et c'est le moins qu'on puisse dire. Le 2 avril 1982, l'Argentine, dirigée par la dictature du général Galtieri, décide de conquérir l'archipel. L'expédition fut un échec puisque l'occupation des îles par les Argentins cesse le 14 juin 1982, mais fit 900 morts, dont plus de 600 Argentins. À l'heure actuelle, 30 ans après cette expédition militaire, l'Argentine continue de revendiquer le territoire et les tensions avec l'Angleterre se ravivent.
On assiste en ce moment à une véritable mobilisation pour la commémoration de cet événement. Il est par exemple prévu que les athlètes argentins présents aux Jeux Olympiques de Londres cet été arborent des maillots avec comme message « Les Malouines sont argentines » qui montre que ce sont des tensions qui sont vraiment encore actuelles. Comment expliquer que les Argentins, qui n'ont pas été présents de façon prolongée sur cet archipel, aient de telles revendications sur les îles Malouines à ce jour ?
Le fait de ne pas avoir eu une occupation prolongée n'empêche pas de revendiquer le droit international. Et si vous voulez consulter toutes les résolutions des Nations Unies à ce sujet, vous verrez qu'elles renvoient toutes à la négociation bilatérale, donc qu'on n'a jamais pris au sérieux le droit des Anglais à occuper le territoire. Les Anglais ont été toujours tout au long de leur histoire, une puissance coloniale. Et ce serait drôle, si ce n'était pas grave, qu'ils accusent aujourd'hui l'Argentine d'avoir une attitude colonialiste. Et il y a eu des arbitrages internationaux qui ont bien établi que le territoire des Malouines, qui est à l'intérieur de la plateforme sous-marine argentine, appartenait par droit d'héritage des territoires de la couronne espagnole à l'Argentine. Donc l'Argentine n'est fait depuis cette époque-là que réclamer systématiquement devant toutes les instances internationales qu'on respecte le droit. Et toutes les résolutions de l'ONU ont demandé à l'Angleterre de négocier de façon bilatérale avec l'Argentine sur le sort de ces territoires, chose que les Anglais se sont toujours refusés à faire. Donc, la question du temps qu'on a occupé les îles n'a rien à voir. Il y a une question de droit. Et sur ce point-là, effectivement, les Argentins ont toujours été assez jaloux parce qu'ils trouvent que c'est une négation de leur souveraineté. Avant de passer à autre chose, je voulais quand même faire bien la différence entre ce qui est une réclamation de droit international sur les îles, qui a été faite par tous les gouvernements démocratiques que nous avons eus en Argentine tout au long de l'histoire, et le débarquement de la dictature militaire, d'accord, que nous ne revendiquons pas en d'accord tant que telle, et qui n'a été qu'une basse manœuvre à l'époque pour essayer de se construire un ballon d'air à l'intérieur du pays, puisque les réactions politiques commençaient à réémerger, et on aurait pu dire qu'à cette époque-là, les Argentins commençaient aussi à perdre la peur de la dictature, donc il fallait faire quelque chose pour prolonger le pouvoir des dictateurs. Heureusement, ça n'a pas été le cas, mais de là à remercier Mrs. Thatcher de la guerre, non. Moi, personnellement, je ne le ferai pas. Donc, deux choses différentes. L'une, d'accord, c'est le droit international, l'autre, une c'est les manœuvres d'une dictature. Voilà.
Mais juste un détail encore là-dessus, c'est-à-dire qu'on comprend que pour les Argentins, c'est quelque chose de très important. En même temps, les habitants des îles Malouines, est-ce qu'ils ont vraiment envie de devenir Argentins ?
Ben certainement pas, mais il ne faut pas oublier, M. Cameron fait appel justement à l'autodétermination des peuples, et il se trompe complètement, parce que là, il ne se trompe pas, il sait très bien qu'il ne peut pas, mais il le fait quand même. Et la définition dans le droit international de l'autodétermination des peuples est toujours en rapport avec un peuple natif qui a été soumis par un autre étranger. Lorsque la population des Malouines est une population anglaise qui a été implantée sur les îles, justement pour pouvoir plus tard revendiquer cette possession au nom des populations. Alors, évidemment, il y a eu dans l'histoire d'autres cas qui se sont résolus. On peut toujours négocier. L'Argentine n'a jamais demandé que les Kelpers, comme on les appelle, deviennent ni des cultures ni des langues argentines. En même temps, on peut certainement, si les deux parties le voulaient, arriver à un accord qui ferait que progressivement, tout en gardant leur langue et leur culture, les habitants de l'île puissent, par exemple, avoir les deux nationalités et un jour parler les deux langues. Rien ne l'empêche, mais on ne peut pas parler d'autodétermination de peuple lorsque c'est un peuple qui a été importé sur le territoire. Et juridiquement, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça n'a jamais été utilisé pour un peuple importé, toujours pour un peuple natif. Donc, évidemment, maintenant ils sont là, mais ça, c'est un état de fait et pas de droit.
Et est-ce que l'estimation du sous-sol des îles Malouines, qui sont estimées contenir peut-être une dizaine environ de milliards de barils de brut, de pétrole brut, sont aussi peut-être au cœur de cette tension ?
Aujourd'hui, probablement. Mais en tout cas, ce n'est pas la raison pour laquelle l'Argentine revendique les îles, parce que j'insiste, on le fait depuis 1833.
Donc, c'est vrai que c'est en 2010 qu'on a découvert le...
D'autre part, si pétrole il y en a, et c'est bien possible, les Argentins ne peuvent que considérer que c'est une façon de piller leurs propres ressources naturelles si c'est l'Angleterre qui les exploite.
Donc ces tensions qui sont ravivées s'apparentent à un conflit colonial, en fait. C'est
absolument
comme ça que c'est perçu.
C'est comme ça que c'est perçu, non, pas seulement par les Argentins. C'est perçu comme ça par tous les pays de l'Amérique du Sud, d'accord, qui viennent de se prononcer tous en soutien de la réclamation argentine. C'est considéré, même si le mot n'est pas employé, de même par les résolutions de l'ONU, puisque j'insiste, même Hillary Clinton, dernièrement, a renvoyé dos à dos les Anglais et les Argentins en disant « ça c'est un conflit bilatéral qui vous concerne ». Et ils n'ont pas pris position, et c'est quand même assez significatif, du côté des Anglais, qui sont leurs alliés naturels et éternels. Donc, même les États-Unis ne veulent pas intervenir en ce moment pour soutenir la position anglaise.
Ok, l'Argentine, en plus de la guerre des Malouines, commémore, si l'on peut employer ce terme, un autre événement. Elle commémore la crise économique et financière des années 2001-2002.
Donc en 2000, déjà, l'Argentine connaît le taux de croissance le plus bas de l'Amérique latine. Et ces difficultés se confirment dans les mois qui suivent, donnant lieu à ce qui est la plus grave crise économique de la période récente de l'histoire du pays. En novembre 2001, malgré les conditions drastiques qu'il impose, le FMI refuse d'allouer un nouveau prêt au pays. L'Argentine est alors en cessation de paiement. On parle de banqueroute d'une nation. Et font suite à cela des émeutes populaires très importantes au mois de décembre qui transforment cette crise économique en crise sociale pour enfin amener une troisième nature de crise qui prend une tournure institutionnelle avec la succession de pas moins de 5 présidents en quelques semaines.
Et l'argent des petits épargnants est parti en fumée et les classes moyennes inférieures se sont retrouvées fortement paupérisées. Alors tout d'abord, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Si c'est possible de le savoir.
On est arrivé là parce que, à l'époque de la dernière dictature argentine, tristement célèbre, non seulement on a exterminé les opposants politiques, mais on a préparé le terrain pour que le pays devienne le laboratoire d'une nouvelle politique économique néolibérale sauvage. Et c'était évident que, étant l'Argentine un pays où les forces politiques étaient très développées, où les syndicats étaient traditionnellement très forts, il fallait d'abord nettoyer, et j'utilise exprès le mot, et tout ce qui pouvait être un obstacle à cette nouvelle stratégie économique avant d'essayer de la mettre en œuvre. Donc effectivement, pendant la dictature, on a commencé à suivre cette politique que j'appellerais d'évidement des ressources propres. Et on a démantelé le tissu industriel et à partir de là, on a subi, ça c'est une opinion personnelle, mais je ne suis pas la seule à le dire, 10 années de néolibéralisme sauvage sous le président Carlos Saúl Menem qui ont absolument vidé les ressources du pays. Il n'y avait plus d'industrie, il n'y avait plus d'emploi, il n'y avait plus d'argent.
Beaucoup de privatisations.
Absolument, mais des privatisations qui ont donné lieu à des affaires, des commissions, de rétrocommissions et des corruptions diverses, dont a profité évidemment un tout petit groupe de personnes qui étaient à charge de l'État et qui ont appauvri l'ensemble de la population et qui ont réussi à paupériser la classe moyenne qui était la plus importante numériquement et la mieux installée socialement de toute l'Amérique latine.
Et on dit parfois que la crise a été aussi provoquée par l'aide du FMI. Est-ce que c'est une...
Si on peut appeler ça de l'aide. Et je dirais que le FMI avait tout intérêt à prêter de l'argent étant donné les contreparties qu'il exigeait à la suite de ces emprunts. Et ce que nous disons, les intérêts qui sont énormes, nous avons payé entre 5 et 7 fois le montant initial de la dette. D'accord. Sans avoir pu la purée.
D'accord.
Donc on aurait encore payé pendant longtemps. Et d'autre part, l'FMI s'attribuait le droit, comme il arrive maintenant en Grèce ou en Italie, et bientôt en Espagne, le droit de contrôler les mesures politiques et économiques de l'économie intérieure, et donc imposer des conditions d'ajustement qui menaient forcément à la récession. Donc l'Argentine a commencé à résoudre le problème à partir du moment où, en 2003, et avec l'accession au pouvoir du président Kirchner, il a dit le Fonds monétaire international n'entre plus chez nous. Il ne nous donne plus des instructions et on n'a pas à lui obéir. Et la deuxième mesure a été évidemment le fait de dire nous payons le 25% ou rien. Et c'est ce qu'on a fait. Oui. Voilà.
On présente parfois le pays comme étant celui qui a fait face au FMI, face à ses demandes de,
non, mais ça, on peut
de
dire
mesures
que c'est vrai.
Drastiques.
Et même aujourd'hui, où la dette a été en grande partie épongée, évidemment, de la partie que l'Argentine a accepté de payer, et le Fonds monétaire international n'a pas le droit de contrôler les finances internes.
Et quelle est la situation donc aujourd'hui? Est-ce que le pays s'est remis de cette crise? Et les habitants, quelle est la part du souvenir douloureux de cette crise qui reste en eux?
Mais la part du souvenir est évidemment forte. Et j'ai été au mois de décembre en Argentine et dans tous les programmes de télévision, par exemple, on a fait des émissions commémoratives de cette période. On continue encore à recueillir des témoignages, etc. En même temps, le pays est loin de cette crise aujourd'hui. Et le fait d'avoir appliqué une politique économique anticyclique où on essayait surtout de protéger l'emploi, de relancer l'industrie pour créer de nouvelles sources de travail, a jusqu'ici été un succès. Évidemment, on est loin de dire tout va bien dans le meilleur des mondes, parce que nous ne sommes pas dans le meilleur des mondes, et parce que la crise européenne et des États-Unis forcément aura quelques conséquences en Argentine. Mais on peut dire que le pays, mais il n'est pas le seul, en général l'Amérique latine, s'en sort beaucoup mieux de cette crise financière internationale que l'Europe ou même les États-Unis. Ça veut dire que l'expérience historique a payé, que nous avons appris quelque chose et qu'on a pris des mesures pour éviter que les crises successives entament à nouveau nos possibilités d'évoluer. Et je crois qu'en ce moment, d'ailleurs, tous les ministres d'économie d'Amérique latine sont en train de concevoir des mesures de protection qui puissent blinder le sous-continent par rapport aux crises externes. Et c'est vrai aussi que maintenant, le volume le plus grand des affaires commerciales de l'Argentine n'a pas comme interlocuteur direct l'Europe ou les États-Unis, mais la Chine et le Brésil. Donc, tant que la Chine et le Brésil pourront s'en sortir, l'Argentine n'en souffrira pas trop.
D'accord. Et on voulait parler en dernier lieu des Kirchner. Vous avez vous-même évoqué tout à l'heure le fait que la fin de la crise est généralement située au début du mandat de Néstor Kirchner. Pouvez-vous revenir sur...
Il parlait des purgatoires. Hein. Il disait, D'accord. Nous sommes au purgatoire, il faut sortir du purgatoire, nous sommes encore loin du paradis. Oui. Mais effectivement, c'est lui qui a pris les mesures qui ont permis que l'Argentine sorte de cette crise.
Et c'est cela qui lui a conféré la légitimité dont il a joui par la suite.
Sans doute, parce qu'il n'avait pas au début une grande légitimité politique. Mmh. Il a été élu par le 20% de la population et personne ne s'y attendait trop, d'ailleurs.
Et on peut même préciser qu'il n'y avait pas eu de deuxième tour à ces élections.
Menem s'était désisté parce qu'il était sûr de perdre, d'ailleurs.
D'accord. Oui. Voilà. Et en fait, il a gagné par la suite la légitimité qu'il n'avait pas eue par les urnes.
Absolument, dans l'exercice du pouvoir.
Pouvez-vous revenir sur les grandes mesures qui ont permis d'associer son mandat à la sortie de la crise?
Bon, je vous disais tout à l'heure, il avait un projet économique anticyclique, donc il a subventionné l'emploi pour éviter que les entreprises continuent à licencier. Et il a investi dans le renouvellement de l'industrie, c'est-à-dire l'Argentine avait été un pays assez industrialisé jusqu'aux années 60-70, et pendant toute la période de la dictature et du ménémisme, ce système a été complètement démantelé. Donc il s'agissait d'abord de récupérer les industries qui étaient restées bien que mal en fonctionnement, et après d'aider la création de nouvelles. Et on disait l'autre jour à la radio argentine, on compte 135 000 industries de plus qui ont vu le jour les dernières années. Donc on refait les tissus industriels, on essaye au moins, mais j'insiste, il faut savoir que c'est un pays qui avait été complètement vidé et on n'est pas encore arrivé au niveau des années 1960, proportionnellement. Mais ça se remet en route, ça marche. Il y a un pourcentage de chômage qui est à 6,7, ce qui est pratiquement considéré comme le plein emploi et qui ferait rêver l'Espagne ou la Grèce, évidemment. Et pour ne pas parler de la France, et il y a eu en plus, et je crois que ça c'est très important, une politique de transfert de ressources des classes sociales les plus élevées vers la majorité des classes plus défavorisées. Donc la situation de ces classes-là et de la classe moyenne ont largement avancé depuis. Donc il y a une politique de redistribution de la rente qui ne s'était pas produite dans le pays depuis les années 1950.
D'accord, et donc 4 ans après Nestor, c'est sa femme Christina Kirchner qui prend le pouvoir en octobre 2007. Elle est avocate de formation, elle est la première femme élue présidente du pays. Isabelle Perón avait exercé cette fonction, mais parce qu'elle avait succédé à son mari décédé en tant que Premier ministre. Elle a été réélue, Christina Kirchner, au mois d'octobre 2011. Alors, les deux époux sont issus du parti justicialiste, qui correspond plus ou moins au mouvement péroniste du nom de Juan Perón, à la tête du pays de 1946 à 1955, puis de 1973 à 1974. Alors, une question complexe, mais le péronisme, de droite, de gauche, on trouve toutes les mouvances associées à son nom.
Absolument.
Qu'est-ce qu'on peut en dire ?
C'est pour ça que pour n'importe quelle mentalité cartésienne, il est absolument incompréhensible. Et parfois pour nous aussi. Mais de toute façon, non, c'est un mouvement. Et le parti justicialiste, ce n'est qu'une coquille plus ou moins vide selon les périodes. Et c'est un mouvement où ont convergé à un moment donné de l'histoire des revendications multiples qui se sont reconnues dans la conduction d'un leader qui a été Juan Domingo Perón. Et évidemment, le premier péronisme était un péronisme qui revendiquait les droits des travailleurs et qui a promulgué les lois les plus avancées de toute l'Amérique latine en matière des droits sociaux à l'époque. Donc la condition de vie de ces classes sociales s'étant énormément améliorée, il n'est pas étonnant que depuis, le péronisme reste une sorte d'horizon social pour les Argentins, puisque plus jamais après eux, n'avaient pas eu une redistribution de la rente semblable. Donc, tout ce qu'à l'époque, on avait transféré des secteurs privilégiés vers les secteurs populaires, leur a été enlevé après le départ de Perón du gouvernement. Donc, c'est resté comme un objectif à reconquérir. Ça me semble assez logique, somme toute. S'il est de gauche ou de droite, ça dépend. Ça dépend. Et je dirais que dans les années 70, juste avant le coup d'État militaire, cette contradiction interne du péronisme était arrivée à son point culminant, puisque le secteur de la droite et le secteur de la gauche péroniste s'entretuaient entre eux. C'est-à-dire, ça, je crois qu'il y a une scène d'un film d'Oliveira qui s'appelle « No habrá más pena ni olvido » et qui est basé sur un roman de l'écrivain Osvaldo Soriano, où on a effectivement une scène où un péroniste de droite et un péroniste de gauche s'entretuent et en criant en même temps « Viva Perón ». Voilà. Donc, ça, je trouve que c'est assez parlant. Et en ce moment, le PJ, on ne sait pas trop où il est, le parti socialiste. En revanche, le gouvernement, il n'est pas de gauche classique, certainement, parce que la gauche classique n'a jamais appelé les foules en Argentine, mais la présidente Kirchner, Néstor Kirchner, et une bonne partie de leurs ministres ont été militants de la gauche péroniste dans les années 70. Donc, ils ne prônent pas la lutte armée, la guérilla est finie, mais ils essayent de revenir vers le premier péronisme.
On entend parfois parler de kirchnerisme, juste très rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. Vous avez parlé par exemple de leur ministre, parce qu'il y a eu des personnes qui sont restées d'un gouvernement à l'autre. Dans quelle mesure le mandat de Cristina Kirchner est-il dans la continuité de celui de son mari ?
Ah, mais il est sans doute dans la continuité, il essaie d'aller plus loin. Et une de ses preuves est que le nouveau staff de ministres inclut un certain nombre de ministres nouveaux qui sont très jeunes par rapport à ceux du gouvernement précédent et dont je pense que l'engagement est aussi un peu plus radical.
D'accord.
Eh bien, malheureusement, notre émission touche à sa fin sans qu'on ait pu tout aborder de toutes ces questions complexes, mais très intéressantes. Donc, on vous remercie beaucoup, Maria Duran, d'avoir été notre invitée.
C'est moi qui vous remercie. J'espère que certains préjugés qui courent les rues en Europe auront été comme ça éclairés.
Et chers auditeurs, c'était par ailleurs la dernière fois que vous entendiez à notre micro la voix d'Antoine, pilier de cette émission, qui nous quitte pour Berlin. Antoine, bon voyage.
Merci, merci. Merci beaucoup, vous allez me manquer. Et n'oubliez pas tout de même, sans moi, d'écouter les autres émissions de Transistor, avec par exemple un nouvel instant poétique de Roméo cette semaine. En attendant, bonne route, et n'oubliez jamais, le monde ne suffit pas.